Février 2011, l'artiste Malaki Farahel nous a ouvert les portes de son atelier. Ancienne fabrique de liqueurs à Malakoff, au sud de Paris, devenue espace de réflexion et de création de l'artiste.
Déjà, dans la rue, il faut marcher un petit peu. On passe par plusieurs petits couloirs, par une menuiserie, encore par un autre couloir. Okay, et on sort par ce couloir, il y avait plusieurs rideaux et tout d'un coup, tac, t'as 18 mètres de plafond avec une verrière, un peu comme chez Frankenstein un peu à l'époque, avec des balcons. Et t'as beaucoup en fait, de morceaux de choses, en fait, d'œuvres en fait, à moi et d'autres choses. J'ai plein de choses, quoi. Ça va de télévision, de machines, de scooters qui n'utilisent plus, de motos, de pièces qui sont en train de se faire en ce moment, de bottes avec des lumières qui sont en train de se préparer, une radio là-bas un peu en train de se monter. Et après, plein de pièces détachées. Et beaucoup aussi, ce que j'ai surtout, c'est du stock ici, en fait. J'ai beaucoup de cartons, beaucoup de choses et beaucoup de pièces détachées. Et après, j'ai un département là-bas d'électronique où j'ai tous des composants. Et après, d'un autre côté, j'ai une espèce de structure où j'ai de la bâche plastique. Et là, j'ai des machines un petit peu à l'intérieur. Quand il fait froid, je chauffe à l'intérieur. Et c'est là où j'ai ce qu'on appelle le marbre, qui est une espèce de gros truc qui pèse 500 kilos d'acier et que je travaille dessus, qui est en fait un peu ma table de boucher, comme on dit, tu vois. Et après, j'ai tous mes outils autour un peu pour attaquer et pour voir un peu. Et c'est là où je me chauffe et c'est là où je dessine aussi et que je fais plein d'essais et qu'à chaque fois, je sors un peu en hiver les trucs. Et c'est après, je vais dans le grand espace pour faire les essais en général. Et après, je retourne dans la cabine un petit peu, voilà. Ici, c'est aussi sale par terre, tu vois. Il y a la poussière, je crois qu'elle doit avoir 30 ans, celle là-bas dans le coin. C'est un peu spécial, quoi. Mais en même temps, je ne sais pas comment dire, c'est type de lieu, moi. Je vais vite dire aussi quelque chose. Un lieu t'inspire. Je dois dire la vérité, c'est que plus ton lieu, en fait, plus en fait, il est complètement étrange, plus il est. Moi, ça fait tellement d'années, c'est très étrange, quoi. Il y a des graffitis partout qui ont été mis de l'époque. T'as un Hitler là-haut. T'as des choses, tu vois. Je veux dire, t'as toute l'histoire, quoi. Pour moi, l'endroit est tellement d'histoire. On faisait des expos même ici à l'époque. Moi, je me présente, quoi. Moi, c'est Malaki Farahel. Voilà, écoute, on peut dire que je suis né encore en 1970 en Irlande. Je suis arrivé en France en 72 à Paris et j'ai commencé les beaux-arts, quoi, quand j'avais un peu, quoi, 17 ans. Et j'ai terminé quand j'avais 22 ans. Et après, j'ai fait l'Institut des hautes études. Et après, j'ai fait la Rijksacademie en Hollande. Et je crois que j'avais fini vers 93-94. Et après, j'ai commencé une première expo à Kerguénec. On avait fait un truc de groupe. Et après, l'année d'après, c'était le Musée d'Art Moderne. Et ça s'appelait les Ateliers 94. Et j'avais montré une première pièce là-bas que l'école m'avait aidé en Hollande pour la produire. Et par chance, le FNAC me l'avait acheté. Et en fait, ça a vite changé un peu les trucs pour moi, parce qu'en fait, tout d'un coup, ça m'a quand même motivé à rentrer dans un pièce de format un peu particulier. Ça veut dire, en fait, de gérer des pièces ingérables, en fait.
Le travail de Malaki Farahel est avant tout politique et dénonciateur. L'art comme forme de résistance qu'il veut rendre accessible et compréhensible par tous.
Je vais dire quelque chose de vachement dur. D'un côté, c'est perdu. On va dire d'un côté que le pouvoir de l'art est passé tout à une certaine classe sociale, d'un côté. Que de l'autre côté, c'est impossible que les autres s'y retrouvent. Comme s'il y avait plus qu'un mur, comme si on avait fait une espèce de fossé avec des barbelés, des bombes atomiques pour que culturellement, ils ne peuvent pas s'en approcher. Et comme quoi, ça ne faisait pas partie des choses. J'exagère, j'utilise des mots forts pour dire qu'en fait, que ce problème, moi, dans ma tête, il est tellement énorme qu'au bout d'un moment, il est devenu mon propre langage, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire un pont entre les gens qui ne sont pas du tout de l'art et un pont avec ceux qui sont peut-être un peu de l'art.
Issu d'une culture punk et industrielle, l'artiste développe des chorégraphies électromécaniques loin d'une esthétique à la quête du bel objet.
C'est une recherche au niveau artistique et technique et de survie avec ce que tu peux faire et ce que tu as et ce que tu penses. Et ça, c'est aussi sur des moyens. Et donc, c'est beaucoup plus cette notion des moyens que tu as. Et après, je vais dire quelque chose de bête, mais c'est une notion d'économie aussi. Que les gens ne supportent pas, tu vois. Boltanski, lui, c'est dans notre sens. Lui, il va donner de l'économie au niveau de l'esthétique. Nous, on va parler d'économie au niveau de la fabrication. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. Ça veut dire qu'on a voulu trouver le langage de l'économie dans notre esthétique de fabrication. Parce que des gens comme nous, on va comprendre vite que tout est esthétique. Les fils électriques, la truc mécanique, tout peut être esthétique. Ce n'est pas une notion de beauté, mais c'est plutôt une notion de générer c'est des ambiances, des couleurs dans ces espaces. Même quand tu vois mon espace ici, tu vois que déjà, lui, il a une certaine notion de couleur, comment tu as une lourdeur. Quand il pleut ici, il pleut autant à l'intérieur. Tu as un peu l'impression que tu as été dans une espèce de poubelle, quoi. Et c'est peut-être, j'exagère un peu, mais c'est important pour moi aussi de montrer ce côté un peu survie. Tu vois, parce qu'on voit bien que dans le musée, c'est plus du tout le côté de la survie. Tu es complètement dans un truc qui est complètement aseptisé. Les gens, ils passent aspirateur. Toi, tu viens là, mais comment est-ce que tu fais, tu vois, parce que toi, tu viens d'un autre monde, quelque part. Donc, comment tu vois, donc, le seul moyen aussi, c'est de voir comment ce monde-là est lié au tien. Et donc, de le ramener. Après, moi, j'ai eu aussi un rapport un peu bizarre. C'est que depuis le début, je me suis dit, utilisons si tout ce que les gens ils détestent, la technique en France, machin et tout, tu vois, l'espèce de truc péjoratif, ouais, ça, c'est de la merde. En fait, moi, c'est ce qui m'a fait extrêmement rire. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai fait aussi pendant des années, parce que les gens ne supportent pas. Et c'est un peu fait exprès, quoi. Et comme, vu qu'ils ne supportent pas ça, bah, autant y aller jusqu'au bout. Il y a un autre truc qu'ils ne supportent pas, c'est le bruit. Donc autant y aller jusqu'au bout. Faire du bruit, alors on va y aller, mais autant jusqu'au bout. Comme ça, au moins, on va les faire chier, mais jusqu'au bout. La loupe, allez, la loupe, allez. La loupe, la loupe, la loupe, la loupe, la loupe, la loupe. On répète et on répète et on répète. T'as pas compris encore, non ? On répète et on répète.
Dans la plupart des œuvres de Malachi Farel, le son a surtout une fonction hyperbolique d'exacerbation des tensions. On y retrouve la force expressive de ses œuvres.
Donc, mais c'est tout de suite ce que moi aussi j'appelle l'école Bruce Nomanesque. C'est tout d'un coup, c'est que les gens ils ont mal compris, en fait, avec beaucoup d'artistes comme nous, il y a l'école Bruce Nomanesque. Que en fait, Bruce Noman est un peu notre père. D'un côté, qui nous a ouvert un peu le côté, parce que c'était lui qui a ouvert un peu cette notion de son dans l'art, de la notion d'agressivité liée au son, de déstabilisation un peu dans l'espace simple. Tu sais, mais après, il y a eu plein d'autres gens, hein, plein d'autres artistes dans les années 60 qui ont créé un peu cette notion du son et de ce qu'on appelle tu sais, un peu de la puissance sonore, quoi, et de la déstabilisation un peu à travers le son, quoi. Et donc, ça rentrait toute cette école-là. Et toute cette école-là, pour moi, elle est autant utilisée. Par exemple, quand moi, j'explique aux gens que le Stuka, l'avion allemand de la Seconde Guerre mondiale, quand il descendait, il avait une sirène qui était en dessous et qui prenait l'air et qui faisait « oui !» encore plus pour faire encore plus peur aux gens. Donc, je voulais raconter que les effets étaient déjà utilisés sur les machines de guerre, mais un truc bête, comme un truc à vent, mais qui rajoutait l'horreur et la peur de faire peur à la personne que tu as en face de lui. Et donc, moi, c'était ces choses que moi, toute l'histoire m'intéresse et que je vais essayer de détourner. Et je vais en faire une espèce de détournement, d'hilarance ou de société qui est complètement un peu en clash. Parce qu'en tout cas, on voit bien qu'on fabrique des choses avec l'autre conception, avec cette conception d'aller plus loin dans l'horreur, que ça ne suffit même pas peut-être que de tuer. Et il faut faire peur, il faut montrer une espèce de fureur aux gens. Et donc pour moi, c'est tous ces langages qui m'ont un peu fasciné, parce que je dois dire que tout c'est comme s'ils avaient déjà tout préconçu, comme si c'était tout déjà préfait, comme une espèce de scénario.
Dans ses mises en scène mêlant bricolage et technologie de pointe, Malachi Farel raconte des fables contemporaines, empreintes d'une forte charge émotionnelle où le spectateur est amené à prendre conscience du devoir d'engagement face à une société trop souvent brutale.
Quand tu composes, même comme la musique, c'est tout de suite cette notion de temps. Tu as une notion au temps. Donc tu as un début, tu as une fin, tu as un milieu. Donc tu es dans les mêmes choses. Tu es dans les mêmes choses que la musique, dans les mêmes choses que... Après, tu peux jouer ton scénario comme tu veux, mais on est beaucoup plus dans cette notion de scénario. Mais en fait, ce qui est vachement intéressant, sur beaucoup de choses, sont des cheminements logiques. Que tu tapes le prochain sujet, c'est une logique, en fait. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que, tu es arrivé à ce cheminement, que maintenant, tu peux faire ce type de choses. Donc, tu vas peut-être pouvoir commencer à les développer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi, ton scénario, par exemple, tu vas le développer pour une première fois, pour une première expo. Mais ça ne veut pas dire qu'il est terminé. Parce qu'après, tu verras les erreurs de ton scénario. Parce que ce qui est toujours bien, c'est que c'est toujours avec ça, c'est que tu joues. C'est la notion d'erreur. Là où il y aura erreur, il y aura réajustage. Parce que ce n'est pas une notion de perfection, c'est simplement une notion du scénario, pour que le scénario tourne. Voilà.
On fait le cas de l'homme-mal. Ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelle pas les Algériens des hommes, on les appelle des ratons ou des bougnoules. Et alors à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoule parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme.
Bah, le contexte que j'ai voulu un petit peu, moi déjà, il y a eu plusieurs choses, mais j'ai voulu faire un jeu avec. Ça veut dire que je voulais jouer l'aspect documentaire sur une installation, et que l'aspect documentaire serait que dans l'objet. Et que quand l'œuvre ne marche pas, elle devient documentaire. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, quand elle ne marche pas, en fait, le moment de repos est le moment de parler. Et c'est là où tu as les témoignages. Et c'est là où, en fait, ça devient aussi dur.
Ils m'ont torturé en me donnant toutes sortes de coups. Des coups de pied, des coups de poing, des coups de bâton. Après, ils ont commencé à me brancher l'électricité sur le corps. Et ils m'ont déshabillé et attaché une civière. Ils m'ont mis des électrodes sur les pieds et m'ont branché sur une machine qui m'envoyait de l'électricité. Ils m'ont envoyé le courant sur les parties génitales, sur la poitrine, les oreilles et ici, à la gorge.
Et donc, hop, toi tu rentres, tu déclenches les choses et tu mets la séquence en route. Et puis en fait, on a un des généraux et on commence un peu comme si on analysait sa voix un peu sur un spectre, comme ça, pour voir un peu comme s'il mentait, pour voir ses émotions. Et petit à petit, tu as une lumière qui commence à monter, et tu as tout un scénario qui est très long, hein, mais moi je fais complètement exprès sur cette pièce-là d'être super super long. Parce que je vois exactement qu'aujourd'hui les gens ils veulent absolument la cause à effet tout de suite. Et au contraire, moi je fais exprès que là, surtout, ça soit super long, parce que là, j'ai comme une autre souffrance de la lecture de l'œuvre, quoi. La lampe tout qui bouge, quoi. Vraiment jusqu'au bout. Quoi.
Ce sont des méthodes assez lamentables. D'abord, on commence par déshabiller les gars pour l'humilier. Ensuite, il y a toujours quelques sadiques qui sont volontaires pour donner quelques coups de poing, quelques gifles, quelques coups de pied. Et puis après, dans certains cas, limite. Mais là, il y avait l'utilisation de
que lui, il est fabriqué de médias, en fait, de téléphones, de radios, de télé. C'est pour ça qu'en fait, lui, il est tous les tours de caméras, de micros. Donc lui, en fait, c'est monsieur média, quoi. C'est tout ce qu'il peut enregistrer, capter. Un peu, il y a la radio dessus. D'ailleurs, la radio, c'est ce qui est le seul truc live, un peu contemporain à chaque fois qu'il y a la radio qui tombe un petit peu, qui se déclenche. Et puis après, des fois, on a un cœur aussi à un moment, parce qu'on a un cœur qu'on trouvait sur Internet qui est coupé comme ça, qui marche tout seul. Je n'arrive pas à comprendre comment cette image on l'a trouvé. Vraiment, c'est le truc plus bizarre, comme une espèce de cœur sur un socle comme ça qui bouge comme ça et tout, et il est coupé. J'arrive toujours pas à comprendre cette image. Ouais, pourtant, moi, j'ai rien fait, pas d'image. J'ai cliqué sur YouTube, et ce qui est intéressant justement, c'est que ça devient comme des collages aussi. Et en fait, on va tout prendre, toutes les images qu'on peut prendre, mélanger avec la guerre d'Algérie, avec tout ça, même du Ku Klux Klan, on va tout mélanger dans une soupe comme ça. Et l'interactivité, ça sera comme des images qui passent, avec comme des images à des moments, papa. Tu vois, genre, après quand ça se passe, ok, ça se passe. Donc, mais surtout, ce que je voulais en aller avec la Gégène, c'est que je voulais parler d'un mot banal, d'une sorte de banalité de la torture qui est arrivée, surtout au niveau de l'histoire française, et que ce rapport un peu franchouillard, un peu entre domestique et même un peu comme espagnol, tu vois, un truc comme proche, tu vois, genre, tu vois, et que c'est fait partie de nous-mêmes, quoi. Et comme quoi, on était obligé de le faire, et comme quoi, c'était normal, tu vois. Et donc, et même, on te dit que les enfants étaient torturés, on faisait des camps, tu vois. Pour moi, tout ça, c'est des trucs comme quoi, tout ça, ça passe comme des voies normales. Et donc, pour moi, c'est des choses comme quoi l'histoire, là, tu vois bien les défauts de l'histoire. Et c'est très intéressant de ne pas donner un reflet, justement, cinématographique de tout ça. Et moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de donner un reflet, comment dire, vivant, et en rapport plus avec peut-être une abstraction, avec des objets d'aujourd'hui, des choses d'aujourd'hui, parce que c'est comme ça aussi qu'on va les voir, ces choses aujourd'hui. Comment on va rentrer dans le passé? C'est sur Internet, avec des moyens modernes, en fait.
La Gégène, comme beaucoup de ses œuvres, est interactive. Dans tous les cas qu'il soit, l'œuvre d'art n'existe pas sans spectateur. Mais il existe aussi des œuvres plus exigeantes envers le spectateur, qui lui demandent pas que son intention, mais aussi une vraie implication.
C'est eux le déclencheur, tout simplement. C'est eux toujours les déclencheurs. Et c'est eux toujours d'une manière bête, c'est eux qui sont les vicieux, c'est eux qui sont là les regardeurs. Donc c'est... Et après, le regardeur, le problème, c'est que moi, ça ne va pas forcément déclencher tout le temps, parce que si lui, il s'en va, et la pièce venait juste de se déclencher, elle ne s'en réenclenche pas. Après, on joue les jeux, c'est que par exemple, quand elle s'arrête, elle continue toujours. Donc la notion d'interactivité n'était pas encore dans ce sens-là. Elle est plus dans le sens que l'interactivité va me donner, moi, l'idée de pause et de démarrage, d'autres possibilités pour pouvoir mettre plus d'ingrédients, par exemple. Et moi, justement, j'évite la notion d'interactivité de jeu, mais plus comme une notion d'alarme. Donc ça veut dire plus comme quelque chose de mental. Où on persuade, où on dit non, tu veux mettre la personne dehors, ou tu veux la mettre dans un état plutôt mental. Et surtout, je ne veux pas forcément me coller à cette grande école de l'interactivité, parce que pour moi, c'est comme si c'était un terme en lui-même, et puis moi, je ne veux pas que ça bouffe le truc. Il faut que l'œuvre puisse exister aussi. Et surtout, c'est le public qui va déterminer les choses. Donc, ça devient très... Il faut que tu trouves vraiment un truc pour que toi, ton œuvre ne soit pas détournée dans le mauvais sens par rapport à ça, parce que sinon, tu vas vite perdre tout tes sens, parce que c'est eux qui vont les avoir beaucoup plus que toi, parce que c'est eux... Si toi, tu laisses la personne tout déclencher, tout scénariser, justement, si toi, tu es dans les scénarios, c'est perdu.
Les installations de Malaki Farel sont issues d'objets récupérés et assemblés à des systèmes électromécaniques, qui introduisent aussi dans son travail la notion de recyclage d'objets, jusque dans les puces électroniques récupérées dans des appareils usagés et reprogrammés.
Moi, je prends un peu le truc de Marcel Duchamp qui parle de ready-made, des objets, tout ça, machin et tout, mais je trouve ça encore plus curieux qu'aujourd'hui, comme l'industrie fabrique tout, il n'y a plus d'objets qui sont hors industrie presque. Et donc, c'est devenu comme des illégaux, des clandestins. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup l'objet clandestin. L'objet comme s'il était fabriqué par une usine, mais personne ne peut savoir par quelle usine. Tu vois. Donc c'est une usine qui ne sait pas ce qu'elle fabrique, elle ne sait pas où elle se place. Et donc moi je trouve ça intéressant, l'usine qui va nulle part, qui ne sait pas ce qu'elle produit. Tu vois, un peu l'espèce de... Et c'est ce qui m'a en tant qu'artiste, c'est là aussi que ça pose plus ces questions-là, que moi qui m'intéresse. Voilà, l'entreprise qui ne sait pas trop ce qu'elle produit.
Ces installations envahissent l'espace d'exposition et conditionnent l'espace mental du spectateur.
Comment tu peux arriver à prendre l'espace sans forcément construire non-stop des choses, parce qu'on a bien vu qu'avec toutes ces choses-là, tu peux faire une notion, toi, je crois que tu l'as compris, c'est que tu peux gérer l'espace beaucoup plus, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que la notion, interactivité, c'est une chose, mais moi, ce qui m'intéresse même plus, c'est comment toi, tu gères l'espace après. Cette notion de comment lire une œuvre m'a l'air plus pertinent, des fois, que la notion d'interactivité. Ça veut dire de comment lire une œuvre, moi, c'est ce qui m'intéressait avant, c'est que souvent, dans les installations, dans les expos, tu avais toute une sorte de tradition, le truc commence là, commence ça, ou ça et ça. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'est que il n'y a plus de tradition. T'es dans le truc ou pas, et tu vas prendre l'espace, et là, ça va shooter de là-bas, là, ça va jusqu'à la... Tu vois, donc tu peux prendre tout l'espace. Mais c'est toi, mentalement, qui le fais, même si psychologiquement et physiquement, c'est raté, parce que tu ne l'as pas vraiment pris, c'est une illusion. Mais tu l'as fait. Et toi, tu ne t'es pas posé de questions, le truc qui shoot là, le truc qui envoie par là, et tout. C'est bête, hein, mais au moins, tu prends tout l'espace. La notion d'espace, il est pris. Tu vois, tu as joué l'espace. Et donc, ça veut dire que déjà, hop, tu as bouffé l'espace. L'espace, il n'est plus un danger. L'espace a été complètement bouffé dans le truc. Et comme ça, tu n'es plus dans la notion d'objet. Parce que c'est ça, surtout aussi, qu'il faut arriver à casser aussi. C'est la notion d'objet un peu cinétique, classique, de l'objet posé un peu sur un socle ou un peu un objet comme ça, mécanique. L'idée aussi, c'est, un, comment ça rentre dans une architecture. Deux, comment ça ressemble plus, peut-être, qu'un seul objet. Et comment tu peux entrer dans la dimension d'installation? Et c'est là où c'est un peu plus complexe, parce que l'installation, ce n'est pas forcément l'installation au niveau traditionnel, quoi. Voilà, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu... voilà.
Parfois, faire quelque chose de poétique peut devenir politique. Et parfois, faire quelque chose de politique peut devenir poétique. Citation de Francis Alice pour son projet The Green Line réalisé à Jérusalem en 2004.
Moi, en une question, je vais répondre d'une manière beaucoup plus complexe. C'est que la question politique, elle est vraiment ambiguë. Parce que qu'est-ce que c'est d'être politique? Est-ce que c'est déjà dans ton atelier du fait que tu acceptes d'être face à face dans ta situation? Ou est-ce que tu es mieux aller donner à bouffer des gens qui ont faim dans la rue? Parce que cette question politique, elle va vite se poser, elle se posera toujours, 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 toujours. Donc il faut faire un peu attention. Tout le monde peut parler politique? Est-ce que c'est plus ça? Tu me comprends? Comme quelqu'un parle politique au supermarché? Vous voyez un peu où je veux en venir, parce que tu as un peu l'impression qu'aussi, monsieur, quand il fait sa ligne, je ne veux pas être méchant, mais ça ne va pas plus loin que peut-être qu'une caissière qui dit stop, j'en ai marre, je ne veux pas arrêter, j'en ai marre de me faire exploiter. Tu vois, je dis n'importe quoi, parce que ça pourrait être... Il faut faire attention, qu'est-ce qu'on parle de politique? Qu'est-ce que c'est que le geste? Est-ce que c'est que le geste politique? Ou est-ce que, tu vois, par exemple, Rosa Parks, c'est elle qui a refusé dans le bus de dire non, je ne vais pas donner ma place à un putain de blanc. Ça, c'est un geste politique. Donc, tu vois qu'il y a toujours eu une culture de la protestation, toujours eu une culture politique et poétique. Toujours eu. Sauf, elle est toujours dans la culture de la subversion, de position ambiguë, parce que c'est dans la souffrance. Et politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et poétiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est en faisant une ligne comme ça que, tu vois? Ce n'est pas pour attaquer, c'est des questions aussi que je me pose, parce que je respecte aussi, il fait ce qu'il veut. Mais si on est dans l'art, on a le droit de poser des questions. Un peu, on attaque. Sinon, ce n'est pas intéressant. Hein? Ceci, après, moi, si la réponse, si moi je peux avoir des réponses, c'est très dangereux, parce que ces réponses-là sont des réponses très lourdes, la politique et la poétique. Parce que moi, déjà, ça vient de l'origine plus liée à mon père. Donc c'est presque, moi, je n'ai même pas le droit d'en parler, parce que quelque part, c'est presque inné déjà que quelque chose que je n'ai pas inventé. Que ça vient du langage que mon père utilisait. Donc moi, quelque part, je ne sais pas comment on veut dire, il prenait l'Irlande du Nord, il faisait des sérigraphies en Irlande du Nord, des bombes, des attentats, et il faisait l'idée de gouttes, de pleurs, tu vois, et que ça découlait du tableau. Et les gens ne comprenaient pas vraiment à l'époque, tu vois. C'était... Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle en fait une notion traditionnelle de cette idée de esthétique politique et poétique. Tu as les deux parfaitement en harmonie. Mais là, ce n'est que ça.
Sur une expo comme ça, moi, j'en avais 5, mais en fait, j'ai 40 chaussures qui parlent. Donc moi, je fabrique 40 chaussures qui parlent. D'abord, avant de pouvoir monter l'expo. Donc moi, je me tape tout ce boulot, qui en fait des mois, pour moi, faire le boucher, là. Mais chaque chaussure est différente. Chaque chaussure pose une autre question, tu vois. Donc c'est... Et en fait, dans le programme,
un pied droit qui parle, parce que lui, il fait deux personnages.
L'autre réponse.
Mais
c'est ce qu'il fait, c'est la lumière qui varie, tu vois.
Well, I saw her yesterday. It is you that
tu vois où je veux en venir, que t'as...
And she's told me that, hey, she says she loves you.
Yeah!
Yeah! Yeah! She loves you.
Yeah!
Yeah! Yeah! She loves you.
Yeah! Yeah!
Yeah! Yeah! She said, you hurt her so good. She almost lost her mind. And now she says, she knows that you're not the hurting kind.
I am.
She says, she loves you.
Yeah!
Yeah!
Moi, quand j'ai fait à Albi, là, le truc que, je fais, que j'ai mis à Albi, en fait, l'idée, c'est que j'ai emmené toute l'idée d'une banlieue un peu trash des États-Unis dans le centre d'art. L'idée était justement quelque chose qu'à la campagne, tu ne fais pas. Bah, c'était beaucoup plus intéressant, en fait, d'avoir comme une carte postale, je vous reviens, je vous ramène le trash, une crack house, tu vois, tout l'environnement le plus extrême américain que tu peux avoir dans les mauvais quartiers, dans le centre d'art d'Albi, qui est une espèce de trash où tu as de l'eau qui coule, mais tu as une sorte de beauté aussi dans le lieu. Et donc, au moins, comme ça, tu transposes. C'est plus l'idée qu'on accroche un truc au mur. Non, 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 non. Ça te donne toute l'expo. C'est non, on n'est pas là. On est autre part. Donc, déjà, on joue sur des choses aussi que moi, je vais essayer de jouer sur la notion de déplacement, la notion de prendre une chose et le mettre dans l'autre. Donc, comme au cinéma aussi, un petit peu. Donc, c'est des langages qui sont déjà moins poétiques.
Malachi Farel compose ses œuvres avec humour, utilisant la satire, la caricature, autant que la dérision, suscitant simultanément l'émotion et la réflexion.
La dérision, pour moi, elle est très importante. Et je vais te mettre la dérision aussi, surtout, parce qu'en fait, c'est des choses comme Jonathan Swift quand il fait Gulliver. C'est ces choses, c'est des parallèles, c'est ces parallèles. Parce qu'en fait, lui, il fait un peu une dérision. Il te fait ce grand monstre, il fait une histoire un peu folle pour parler, en fait, donner de l'imagination aux gens. Donc, partir dans un truc un peu irréel, mais pour avoir les références d'aujourd'hui. Et sur comment quelqu'un qui peut être petit peut être méchant. Et donc, pour moi, c'était ça aussi, ce côté... Si moi, il y a un peu la dérision, c'est pour montrer l'autre côté qu'il y a des choses. Si tu me saisis le côté, plus ou comme un outil, il faut démontrer l'outil qui nous use, aussi il faut le mettre à blanc. Et pour moi, je trouve que la dérision est notre meilleure arme, notre pauvreté, entre guillemets, parce que dérision, c'est pauvreté, c'est un sens poétique, hein, parce qu'en fait, c'est là où on a vraiment... Où quand lui, il fait sa poésie avec, c'est comme une espèce de dérisoire aussi, lui, il essaie d'être dérisoire. Mais souvent, ça, c'est trop vu comme étant la dérision, que si jamais tu engendres une dérision au niveau plus grande, ou même, comme Tinguely le disait, pour être, comment dire, pour faire des blagues, il faut être sérieux, quoi. Et en fait, même pour être un clown, il faut être super sérieux. Donc, ton côté dérisoire, t'as beau être drôle, t'as beau pleurer, mais c'est ce sérieux qui va donner aussi la solidité à tout ça. Même le clown peut te faire peut-être rire de la mort. Et surtout aussi, c'est ce langage du peuple. C'est un langage, mais c'est leur langage. Donc, c'est pas moi, c'est pas comme... Et c'est surtout, c'est pas comme si moi, j'inventais un langage, en fait. C'est je prends leur langage, en fait, j'appartiens à eux, quelque part. Donc, entre guillemets, hein, c'est bien sûr que c'est pas... Mais en même temps, tu joues un petit un rôle, quoi, dans ce sens-là. Je sais pas comment dire, tu vois. Et en fait, l'artiste a un rôle. Ça suffit de croire qu'il n'en a pas. Moi, je crois au contraire qu'il a un rôle, il est bien déterminé, il est bien clair, le rôle. Et c'est bien, bien clair qu'aujourd'hui, la moitié des choses, des gens comme nous, c'est nous qui pouvons utiliser ce genre de trucs, qui peuvent faire n'importe quoi, qui peuvent faire nos expos. Si ce n'est pas les artistes, c'est qui ? Et après, surtout moi, elle m'avait intéressé parce que moi, j'avais mis cette pièce à Gennevilliers. Au début, c'était Mitterrand et Jospin, qui étaient des deux socialistes, tu vois, les mecs de gauche, et qui étaient, tu vois, qui demandaient de l'argent aux gens qui rentraient, qui se l'échangeaient. Et comme par hasard, à Gennevilliers, ça a marché. Ils ont compris les gens, les pauvres, tout de suite. Tu vois, je veux dire, ils l'ont trouvé super drôle. Les gens qui étaient riches, ils n'avaient pas compris. Donc tout de suite, j'ai vu la limite de la compréhension. Même les enfants, ils voyaient le truc, ils comprenaient, ils rigolaient, ça faisait rire, on leur donne des thunes, ils leur piquent. Je veux dire, ils avaient compris, quoi, que le riche, lui, il ne saisit pas.
Face aux valeurs universelles de dignité humaine, à l'utopie démocratique, plane alors, sur toutes ses œuvres, la question de la place de l'autre, du spectateur.
Moi, ce qui m'intéresse, justement, avec mon expérience, que ce soit de droite ou de gauche, en fait, les gens, au niveau de la lecture de l'œuvre, ça ne change pas, normalement. C'est ça que je trouve assez fascinant. C'est après coup qu'ils se posent peut-être question. Mais ce n'est pas là où ça tilte. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que comme c'est de l'art, ils sont plus ouverts. Moi, j'ai toujours rêvé un truc. Je ne sais pas comment te dire, mais c'est peut-être moi, ma partie naïve. Je veux que les gens... On donne envie d'aller aux expos. On donne envie d'aller voir une suite ou pas d'un artiste qu'on a envie de suivre. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas forcément envie de le suivre par rapport à son dernier tableau. Je ne sais pas comment dire. Voilà. J'aimerais bien qu'on suive les artistes, voilà, qui ont compris que c'est des développements. Voilà. Et certaines parties de leur vie, ils arrivent à développer certains types de choses. Et si les gens sont open, ils voient que c'est des shows qui te battent et qu'en fait, que cette bagarre est vraiment comme quelque chose un peu d'exceptionnel, quoi. Et s'ils arrivent à le voir comme ça, bah, une expo, ça vaut le coup d'aller le voir. Et c'est là où tu essaies de mettre plus sur ces choses-là, quoi. Et donc de mettre toute ton énergie sur ça. Donc sur quelque chose qui est super traditionnel, en fait, et super classique. Mais c'est comment repartir peut-être sur un terrain super classique et créer une sorte d'échange, si c'est possible, et d'attirance, mais que ce soit pas... C'est pas qu'une question de public, hein, c'est méchant de dire ça, mais d'attirance, qui est un peu un échange, parce qu'en fait, tu ne t'en sors jamais, c'est pas comme si tu avais plein de monde qui arrivait, parce que tu n'es vraiment pas au niveau de la musique, tu vois. Donc tu es vraiment loin de tout ça. Mais au moins, si tu arrives à un peu donner une synergie sur tout ça, que les gens ont au moins compris ce que tu voulais et compris ton engagement, bah, je suis déjà, moi, bien content qu'il y ait des gens qui l'ont saisi. Après, l'autre chose que j'attends aussi beaucoup, moi, c'est tout ça me donne un reflet du pays aussi. Tout ça m'aide, moi aussi, avec tout le monde aussi, en même temps, tu vois, de me dire, ouais, on est là et regarde. Voilà, c'est ça l'état des lieux, quoi. Et on peut tous en parler. Donc moi, j'ai un peu peut-être celui-là qui va lancer le truc, mais j'attends aussi beaucoup, en retour des gens, parce qu'en fait, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Donc en fait, on se met tous un peu sur le même niveau, et moi, comme ça, ça devient un ingrédient auquel on peut parler, comme un livre. Peut-on parler de ce livre ? Voilà. Et après, en fait, on se décale un petit peu de la chose, même si moi, je ne peux pas complètement me décaler, mais en tant qu'artiste, au moins, on devient comme une espèce de rapport à travers sur plus une matière, sur des choses, sur des questions, et que tout ça, en fait, était plus pour engendrer ça. Et après, bien sûr, devoir catalyser tout ça. OK ? Donc ça veut dire, c'est encore même peut-être plus conservateur de ma part, parce que moi, carrément, j'archéologique. Donc carrément, j'en fais encore plus que les autres. Tu vois, je le mets carrément dans l'histoire, mais dans un sens complètement comme les musiciens le feraient. Donc, qui est quelque chose de normal. OK ? Donc, toutes ces traces sont tout à fait normales. Après, ce qui est bien, c'est qu'après, est-ce qu'on peut sortir de la banalité ? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus étrange ? Ça, c'est, on le sait. Si on est plus, en fait, dans un populaire, ou moins, ou plus dans un langage de l'art contemporain. Parce que moi, souvent, c'est le problème, c'est que souvent, tu vas te retrouver dans une expo et tu dis à la fin, mais en fait, c'est pour qui qu'on fait une expo ? C'est pour les gens de l'art ou pour le public ?
Lors de notre rencontre dans son atelier, Malachy Farrell était en cours de préparation de son dernier projet, Roman Dub.
Ok, du miracle, parce qu'en fait c'est un camp de concentration pour Rome, en fait, un mélange que je vais faire. Et en fait, je vais avoir une triple lumière dessous en poursuite. Ça veut dire il y a poursuite dessous. Ça veut dire dans la rue, tu auras la lumière. Parce qu'en fait, j'ai toute une énorme vitre. Donc l'intérêt, c'est que même dehors, tu auras une lumière qui cherche les gens, même quand ils passent dans la rue, quoi, en fait. Tu vois, dès que je veux un petit peu que ça sorte du truc, quoi. Et on va avoir une caravane. Et dans la caravane, en fait, ça, c'est cette partie-là où il y a les sifflets et la bagarre, ce que sera l'intérieur. Je vais faire un système de frappe pour que tu entends la réverbération beaucoup plus forte dans la caravane. Et ici, eux, ça sera un peu la partie des esclaves, parce que ça, c'est parti sur les champs d'esclaves noirs américains dans les prisons, quand ils travaillent. Donc, je fais un petit parallèle. Et là-bas, c'est la radio. C'est l'idée de Roman Dub, donc l'idée des radios, de tout ce qui est un peu, toutes les trucs, les discours qui sont pris sur la question Rome. Et qui est un peu comme si à la radio, on en parlait d'une manière un peu plus... Parce que je parle un peu, tu sais, des radios un peu maintenant, tu sais, Internet, on fait des radios un peu partout. Donc là, l'idée, on la monte un peu n'importe où. Mais quand même, si tu regardes, là, les micros sont des guns. Donc l'idée est quand même, il y a un peu une métaphore que à chaque fois, ça fait mal. Tu vois, comme quoi, en fait, il n'y a pas à voir les deux côtés de l'info, quoi. L'info peut te tuer, comme elle peut... Et après, je joue aussi toute l'idée qu'il y a les personnages, toute l'idée avec les casques, tout ça et tout. Et comment dire, dans tout ça, je vais avoir plein de câbles électriques et je vais essayer de remplir l'espace de câbles électriques, je vais percer les plafonds partout et je fais des essais de câbles, j'ai des centaines de mètres de câbles que je vais faire pour toute l'idée d'une rivière de câbles qui passe à travers, pour donner toute l'image à travers de la caravane, donc je vais faire tout un truc un peu esthétique, il y a tous les câbles qui passent à travers tout ça, pour ramener tous les câbles que je veux à l'intérieur et que de l'extérieur j'ai tendu du linge aussi, machin et tout, pour donner tout le côté caravane, machin, et comme ça dans tout ça, et toi tu vas déclencher des patterns un peu là-dedans, et c'est toi qui vas déclencher un peu tous les éléments, et comme ça il y aura l'aspect nuit et l'aspect jour. Mais je trouvais ça drôle de déplacer les éléments. En fait, il n'y aura pas l'idée des sièges sur la radio. Ça sera déplacé comme ça.
Je comprends pas, Laurent.
Il n'y aura pas de logique.
Ah oui, d'accord. Les ministres et tout ça, c'est toi qui décides de ça. Ça, je peux pas en juger, moi, la vérité. Mais aussi, ils ont le droit aussi d'exister. Voilà, c'est tout.
Moi, je joue sur tous les trucs.
C'est pas qu'il y a trop de Roms, c'est qu'il y a trop de tout. Quand il y en a de trop, ben, ça déborde. Quand les Roms sont de passage dans un village, ben, il y a des choses qui ne sont plus là. Dans le nord de Paris, c'est même plus des gens du voyage. C'est des gens du voyage qui se sont arrêtés à un endroit. Faudrait peut-être...
C'est que les sédentaires ont peur des nomades, des voyageurs, et les voyageurs ont peur des sédentaires.
Pourtant, la loi est claire. Toute commune de plus de 5000 habitants.
On se fout de la gueule totalement.
la loi est claire. Ça veut plus rien dire, quoi. Non, t'as nul. T'as nul le truc, c'est... Pourtant, la loi est claire. C'est genre, je sais pas comment dire, c'est par l'autre. Pourtant, la loi est claire. La dérision, là, ça la pousse. Tout le monde en rigole, quoi. C'est comme la politique, ça devient une grosse blague, quoi. Comme un jeu... Les cases, tu vois, c'est des bombes de peinture. Tu vois, c'est n'importe quoi, quoi. C'est le plus cheap possible, tu vois. Regarde mon portable, regarde mon appareil photo. C'est du Lactel. Mais la prise de tête, hein. Il a pas ça, mon appareil photo, je te dis.
Tout ça, c'est comment visualiser qu'en fait, aujourd'hui, on va se dire, mais comment est-ce que tu peux faire de la mécanique, de la robotique, de l'électronique, parler de ci, parler de ça, que c'est pas possible. En fait, au bout d'un moment, tu n'y arriveras pas forcément. Et je crois que c'est pas le but norme aussi, en fait, parce que tout le monde va croire que il y a toujours un but. Mais en fait, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Et c'est ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'y a pas de but, parce que sinon, ça serait comme si tu aurais fini les choses. Et toutes ces choses doivent rester complètement ouvertes.